On a commencé la semaine dernière une nouvelle série, Carnet de voyage. C'est une série sur la prière. On veut grandir dans notre vie de prière. Puis on a intitulé cette série-là Carnet de voyage parce que la prière, à la lumière des psaumes, on va être dans les psaumes tout au long de la série. Les psaumes, c'était un livre de prière. C'est un recueil de prière pour les Juifs, pour les chrétiens depuis des milliers d'années maintenant. Et on peut voir à travers les psaumes que la prière dans nos vies personnelles, à quelque part, ça devrait être un peu comme des carnets de voyage qu'on écrit à Dieu, où on raconte nos journées, on raconte nos états d'âme, nos défis, nos bénédictions, nos angoisses, nos craintes, nos joies. Et c'est ça la prière, c'est un endroit où on va déverser notre cœur devant Dieu, puis en déversant notre cœur devant Dieu, on entre en communion avec lui, et progressivement, l'Esprit-Saint nous rappelle sa parole. Puis à travers les larmes, nous ramène à la joie, nous ramène à l'espoir. Et donc ce matin, on va se tourner vers le psaume 34. Vous pouvez tourner déjà avec moi dans le psaume 34, mais j'ai besoin juste de vous donner un petit peu d'informations historiques sur les circonstances ou le contexte de ce psaume-là, parce qu'il a été rédigé par David. David qui, alors qu'il était prétendant au trône d'Israël, donc il n'est pas encore roi, mais que déjà il est dans une relation extrêmement difficile avec celui qui est roi, qui n'est pas tellement heureux de savoir qu'il y a un prétendant au trône qui aurait reçu l'aval de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais attente à sa vie. Et donc, David est dans un moment de sa vie où il est en fuite. Et à de nombreuses reprises, sa vie va être mise en péril. Et dans des circonstances particulières qu'on va voir un peu tout à l'heure dans le message, David va se tourner vers Dieu, va crier à Dieu parce que sa vie est à nouveau en péril et Dieu va le secourir. Après avoir été délivré par Dieu, David va écrire ce psaume-là. C'est un psaume qu'il écrit parce qu'il veut, enseigner le peuple d'Israël, il veut enseigner ses enfants dans la foi, il veut nous enseigner, nous, l'Esprit-Saint veut nous enseigner, nous, à travers ce psaume-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces moments où la frayeur nous prend, où des peurs nous prennent dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et David veut nous enseigner à nous tourner vers Dieu, à s'attendre à Dieu et à plonger dans une communion plus intense encore avec Dieu lorsqu'il y a des moments difficiles qui se présentent devant nous, afin de grandir dans cette communion-là avec Dieu. On va prier ensemble, puis ensuite on va écouter la lecture du psaume 134. Psaume 34. Père éternel, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi ce matin, chacun avec nos états d'âme. Certains sont dans la joie, il y a un bon repas qui s'en vient tout à l'heure pour la fête des pères, où on se réjouit de pouvoir fonder une famille, je pense à Jean-Simon, à Janie, Seigneur. Et d'autres, Seigneur, viennent avec de l'angoisse, avec des craintes, des peurs, parce qu'on traverse toutes sortes de circonstances différentes, Seigneur, comme on vient de l'énoncer déjà ce matin, juste dans cette bienvenue, juste dans ces quelques moments de prière. Mais on vient à toi, Seigneur. On vient devant toi. Nous sommes assemblés en Église pour recevoir ta parole et entrer en communion avec toi, Père. Ce matin, nous nous tournons vers toi. Et notre prière, c'est qu'à travers ce psaume, à travers cet homme de prière qui était David, cet homme d'expérience, qui avait connu la communion avec toi dans les moments de détresse, on te demande de nous faire grandir, Seigneur. Ce psaume a été écrit pour notre instruction. Viens nous enseigner, Seigneur, à nous confier en toi avec nos craintes, nos peurs, nos doutes, dans les moments de joie comme dans les moments de malheur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de psaume 34 dans la nouvelle édition de Genève. Psaume 34, nouvelle édition de Genève. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.
Merci, Julie. Il y avait un titre cette semaine dans le New York Times. Ça disait ceci, je vais traduire après. Prozac Nation is now United States of Xanax. La nation du Prozac est à présent les États-Unis du Xanax. Et puis, ils font juste un constat que dans les années 90, un des médicaments les plus prescrits aux États-Unis était le Prozac pour traiter des problèmes de dépression. Et maintenant, un des médicaments les plus prescrits est le Xanax pour traiter des problèmes d'anxiété. Et loin de moi de commencer à me prononcer sur la question des médicaments, je vais plutôt prendre la réponse de Jésus. Rendez au médecin ce qui est au médecin, puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est bon? On va y aller comme ça. Allez voir votre médecin si vous pensez que vous en avez besoin. Mais il demeure. Que ce soit dans le cadre de la dépression, que ce soit dans le cadre de l'anxiété, que Dieu et notre foi ont un grand rôle à jouer dans ça, n'est-ce pas? Un grand rôle à jouer dans ça. Et à travers ce psaume-là, le psaume 34, David veut nous enseigner, il veut nous instruire. Qu'est-ce qu'on fait avec les craintes, avec les peurs de la vie? Comment est-ce qu'on deal avec ça? La réalité, c'est que la vie amène son lot de frayeurs et de souffrance, puis c'est comme si tout ça est une espèce de un effet boule de neige, n'est-ce pas? Si t'as assez souffert dans la vie, t'en viens à appréhender les souffrances qui pourraient venir dans la suite, puis là, ça devient un phénomène d'anxiété, de crainte, de peur. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Lorsque j'ai appris la nouvelle vendredi de ce drame-là qui est arrivé, j'ai pas pu faire autrement que de commencer à m'inquiéter pour mes enfants. Ça a été automatique dans mon esprit. Après avoir eu compassion pour le drame, j'ai commencé à penser à mes enfants immédiatement. Voyez-vous? Et donc, il y a cette espèce de cycle-là où il y a les malheurs qui viennent dans ce monde déchu, qui frappent le monde et qui entraînent aussi de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis David est en train de traiter cette question-là. Puis David dit au verset 12, « Venez, mes fils, écoutez. » Donc, David prend son expérience à lui, puis il dit, « Il y a quelque chose pour vous là-dedans. » Moi, je suis passé par là, j'ai vécu des craintes, j'ai vécu de la peur, ma vie a été en péril à de nombreuses reprises. Maintenant, je veux vous enseigner qu'est-ce que la foi vient jouer là-dedans, qu'est-ce que Dieu vient faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut retenir comme instruction. Et déjà, je veux juste qu'on prenne cette leçon pratique-là qu'il y a dans le psaume 34. On est en église. Dans l'église, ici, il y a des vieux et des vieilles routières de la foi. Hein? Qui roulent leur bosse dans la foi depuis des années déjà, puis vous savez ce que c'est que de vivre des souffrances, de vivre des angoisses, de vivre des frayeurs et de persévérer dans la foi. Ces gens-là, pour les jeunes dans la foi, sont là pour vous partager leur expérience. Ils sont encore dans l'église, ils louent encore Dieu le dimanche matin, ils ont encore de la louange sur les lèvres. Ces gens-là ont quelque chose à vous enseigner dans les groupes de quartier, dans la prière des hommes, la prière des femmes. Juste aller jaser avec eux, prendre un café et puis leur demander « Comment tu fais pour te confier encore en Dieu après toutes ces années-là? » Est-ce que c'est parce que Dieu t'a épargné de toutes les épreuves que le commun des mortels vit? Et on a des choses, on est en église, une église multigénérationnelle, multigénérationnelle spirituellement aussi. Et donc, on a besoin de s'instruire les uns les autres en partageant, comme David est en train de le faire ici. Amen? Amen? On a besoin de ça, vous avez besoin les uns des autres. Quand tu es pris avec cette difficulté ou t'as ces angoisses que tu vis, tu es en église, on est en église, on a besoin de connecter ensemble puis de partager ensemble ces défis-là. Et David nous dit qu'on a un certain nombre de leçons à apprendre. Il veut nous les enseigner dans ce psaume-là, qui vont venir faire toute la différence, qui peuvent me permettre de traverser la vie avec ses malheurs et en même temps de trouver une joie dans la vie, de trouver un bonheur dans la vie, de trouver une certaine paix dans la vie, malgré le fait qu'il y a des malheurs derrière moi, puis il y en a d'autres qui sont à venir encore. Il y a des craintes qui sont derrière moi, il y en a encore d'autres qui sont à venir. On vit dans un monde déchu. Tant que Christ n'est pas revenu ou que je ne suis pas allé dans la gloire, il y a d'autres plaques qui s'en viennent, d'autres tapes en arrière de la tête, il y a d'autres tuiles qui vont tomber. Ça fait partie de la vie ici-bas. Et David me dit que si j'apprends un certain nombre de principes quant à Dieu et quant à la prière, bien je vais pouvoir remplacer, et c'est un des premiers principes qu'il nous enseigne, je vais pouvoir remplacer la peur de la vie, je vais l'appeler comme ça, la peur de la vie, par la crainte et la révérence envers Dieu. Je vais remplacer ces peurs-là écrasantes, destructrices, par une sainte crainte de Dieu, ce respect pour ce Dieu souverain, et je vais apprendre à me confier en lui à travers les épreuves. Et concrètement, pour vous donner le contexte, David est en fuite au moment, l'événement auquel il fait référence dans le psaume 34, on le trouve dans 1 Samuel 21, vous pourrez prendre le temps d'aller lire ça, mais David était en fuite. David, c'était en fait un gars qui vivait comme la vie parfaite. Avant ça, je veux dire, c'était un berger, tout allait bien, tu sais, c'est Heidi dans les prés avec sa harpe, puis ses petits moutons, puis en train d'écrire des cantiques à Dieu, puis Dieu est extraordinaire parce que Dieu avait donné des moutons, puis de l'herbe, puis tout allait bien, puis alléluia, ça va être comme ça, un jour je vais me marier, puis je vais avoir plein de moutons, puis une femme, puis des enfants. Puis un jour, Dieu est allé chercher David avec ses moutons pour le conduire tout près du champ de bataille, puis là David a vu que son peuple était menacé, puis David va affronter Goliath par la foi. Jusque-là, tout va bien parce que Dieu va lui donner la foi puis il va abattre un géant, mais là, la donne vient de changer. Dieu vient de faire exploser la vie de David parce que tu peux pas comme tuer le plus grand ennemi d'Israël puis juste retourner à tes moutons. De temps en temps, on va venir te chercher puis on va dire « Hey man, on a d'autres Goliaths à abattre, peux-tu venir nous aider? » Puis finalement, il va se retrouver à la cour, puis Saül va apprendre qu'en fin de compte, Dieu avait des projets plus grands encore pour David. Samuel est venu le mettre à part pour la royauté. Alors, imaginez la situation politique. Saül règne sur le trône, et celui qui doit prendre sa place a déjà été nommé par Dieu. Comprenez la game, là? Fait qu'il n'est pas tellement content, le monsieur. Et il va le prendre en grippe. Littéralement, il va essayer de l'abattre à quelques reprises lui-même, puis finalement, il va lancer ses hommes après lui, puis David est en fuite. Puis là, David, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il s'est dit, là, je laisse mes hommes derrière moi, je vais aller me cacher, je vais aller dans le pays de Gat, puis il va se rendre finalement au milieu des Philistins. Goliath est un Philistin, puis il se dit, je vais juste comme passer pour quelqu'un du peuple, tu sais. Yeah, sure, super bonne idée, mon homme. Fait que pendant qu'il est en train de se cacher au milieu des Philistins, il y a des gens qui le reconnaissent, ils disent, hey, c'est David! C'est David, fait qu'ils conduisent au roi. Ils tiennent le héros d'Israël. Fait que David, dans un moment de génie, décide de se faire passer pour un fou, puis il commence à faire toutes sortes de niaiseries comme s'il avait perdu la tête. Je vais vous épargner la salive dans la barbe, mais littéralement, il se met à baver par terre. Puis finalement, il se fait passer pour un gars qui est complètement débile. Là, le roi dit, bon, OK, c'est correct, là, ce ne sera pas glorieux si je l'écorche vivant, celui-là, tu sais, il n'a plus sa tête, laissez-le partir. Puis David écrit ce psaume-là parce que probablement qu'en continuant à saliver, il a fait une couple de prières à Dieu, puis il a dit, help, please, please. Puis Dieu l'a délivré. Puis là, il écrit ce psaume-là. Ça, c'est les circonstances du psaume. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est David. Tu sais, David, c'est le gars qui a une foi en Dieu imparable. Il arrive, puis le peuple d'Israël est menacé par une espèce d'impie qui méprise Dieu de, je sais pas, 9 pieds d'eau quasiment. Puis là, David dit, c'est quoi cette affaire-là? Il insulte Dieu, puis toute l'armée, ma gang de chicken. Allez, il y a pas personne qui va aller se battre contre lui. Tu sais, puis petit gars, il s'en va là avec sa harpe, puis il dépose sa harpe, prend son slingshot. Boum, il descend, tu sais. C'est le gars qui a abattu Goliath. Tu dis, ce gars-là, il n'y a plus de peur. Il connaît pas la peur. La foi dans sa vie fait que la peur n'est plus dans sa réalité. Mais la vérité, quand tu lis l'histoire de David, c'est pas ça. C'est que l'être humain étant ce qu'on est, il y a la foi, puis il y a la peur, puis il y a la foi, puis il y a la peur, puis on grandit à travers ça. Et donc, David nous dit, t'as beau toute la semaine être le kingpin à ta job. Tu sais, t'es comme le gars qui maîtrise la situation, les gens te respectent, ou t'es la personne qui est comme au-dessus de tes affaires. À l'université, t'es celui qui est toujours en avance dans ses travaux, qui est toujours à son affaire. À l'école, t'es celui qui décroche des prix, puis toutes sortes de choses. Puis t'as l'air comme, t'es là, tu sais, tu maîtrises la situation. La vérité, c'est qu'il y a des moments où, comme un petit lionceau, c'est ça l'image qui est donnée dans la psaume, on est complètement désemparé, puis dans le fond, là, il y a juste un petit gars puis une petite fille qui est, dont le cœur est saisi de frayeur et de peur. Puis si on pouvait chacun se retrouver à quelque part dans nos nuits d'insomnie où tu dis, Seigneur, je peux-tu juste m'endormir parce que je sais que demain matin, ça va être moins pire. Mais là, tout de suite, là, les phrases qui nous viennent à l'esprit, c'est, je m'en sortirai jamais. J'ai aucune idée comment je vais m'en sortir. Et donc, la vérité, c'est que les plus forts d'entre nous, on a des moments où on est des petits-enfants, puis on a juste peur. On est juste terrifié parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec le travail, on ne sait pas ce qui va arriver avec la santé, on ne sait pas ce qui va arriver avec telle relation. On a peur d'être dévoilé parce qu'on réussit juste à tenir comme notre monde en équilibre, notre château de cartes, puis tout d'un coup, tu dis « Wow, je pense que tout va s'effondrer. » Les gens vont comprendre que dans le fond, je ne la tiens pas pantoute, ma vie en contrôle. Et David nous dit, il y a un remède à ça. Il est dans le psaume 34 ensemble. Ce matin, on va voir ensemble qu'apprendre à prier, c'est apprendre à se confier en Dieu quand la peur nous prend aux tripes. Je répète ça, apprendre à prier, c'est apprendre à se tourner vers Dieu quand la peur nous prend aux tripes. Et donc, j'ai intitulé le premier point, la joie de chercher Dieu dans la prière. On lit dans les versets 2 et 4, « Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. David nous enseigne à travers le psaume 34, à la lumière de son expérience, il y a eu la chienne, le gars. Il y a eu peur pour sa vie. Le seul remède qu'il a trouvé, c'est pas de dire... « Ah, vous voulez mépriser l'Éternel, je vais ramasser 3 cailloux, je vais détruire votre armée. » Non, il s'est mis à faire le gars qui a perdu la tête puis à baver par terre, tu sais. Il a vraiment eu peur. Mais après avoir vu comment Dieu l'a délivré, il dit, « Moi, je vais louer Dieu toujours, tout le temps. Même quand je vais avoir la chienne, je vais louer Dieu. Même quand je vais être terrifié, je vais louer Dieu quand même. » Et c'est vraiment là que David est en train de nous conduire, apprendre à se tourner vers Dieu, à se confier en Dieu dans nos moments de plus grande frayeur, dans nos moments de peur. David dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voyez-vous, David a du vécu. David n'est pas quelqu'un qui parle en théorie, là. C'est pas un prof de théologie, c'est pas un séminariste, c'est pas un docteur en théologie, c'est un berger qui s'est fait catapulter dans des situations politiques imprenables où sa vie allait être mise en péril. Il a du vécu, il sait de quoi il parle. Il sait c'est quoi prier quand t'es un petit gars dans ta maison qui dit « Tout va bien parce que mes parents tiennent tout ça en place puis je loue le Seigneur parce que Dieu est bon. » Yeah! Attends un peu, là. On va te sortir de la maison de tes parents puis il va falloir que t'ailles faire face à la vie. Il a fait face à la vie, sa vie a été en péril. Et donc, il a du vécu, il sait de quoi il parle. Il a vécu avec des peurs. Et probablement que cet homme-là a vécu des peurs plus intenses que la majorité d'entre nous vivront jamais dans notre vie. Maintenant, il nous dit au verset 9, Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. David a l'expérience de la bonté de Dieu. C'est comme si c'était un mets succulent. C'est tellement concret pour lui, vivre avec des peurs, se confier en Dieu, voir Dieu intervenir, que c'est comme un mets succulent qui sent bon. Vous connaissez le pouvoir de la mémoire olfactive? À quel point c'est puissant, ça nous ramène des années en arrière, des fois. Juste de sentir un parfum, tu reviens 30 ans en arrière. Pour David, c'est Dieu qui sent ça, se confier en Dieu, parce qu'il parle par expérience. Et ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il se tourne vers ses enfants dans la foi. Au verset 12, il dit, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Et l'idée, c'est qu'on peut apprendre de l'expérience des autres, on peut apprendre de David. Et je me prépare à faire face aux épreuves de la vie en apprenant déjà, en célébrant déjà la bonté et la fidélité de Dieu. Je célèbre Dieu maintenant. Puis quand la réalité de la vie vient me rattraper, je m'en retourne au même endroit. C'est ça que David est en train de faire. C'est Jésus qui dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». C'est possible pour toi maintenant de te préparer pour les épreuves à venir. Est-ce que tu crois ça? C'est possible pour toi maintenant de commencer à charger ton cœur, charger ta pensée de louange, de foi, pour te préparer à faire face aux épreuves qui s'en viennent. Et c'est ça que David veut faire avec nous ici. Apprendre à marcher par la foi et non par la vue, en lui amenant toutes nos peurs. Il dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est important de réaliser ce que David veut faire ici dans le psaume, parce que David a vécu une délivrance physique. Sa vie est en péril, il prie, Dieu le délivre. Puis il va nous enseigner des leçons de ça. Il dit, « Fais confiance à Dieu, Dieu délivre les siens. » Mais il ne nous délivre pas seulement de nos périls. Il nous délivre aussi de nos frayeurs. Et le mot frayeur qui est là pour être très bien traduit, c'est un mot très, très fort, par terreur. Voyez-vous, David, après avoir expérimenté ça, il dit, moi, je vais louer Dieu tout le temps. Quand les craintes, quand les peurs commencent à m'envahir, quand je vois une situation, je vais me tourner vers Dieu, puis je vais commencer à le louer. Je vais commencer à l'adorer. Puis les peurs viennent tout le temps, viennent n'importe quand dans la semaine. On a des pensées. Écoutez, cette semaine, voilà deux semaines, je m'en vais dans mon sous-sol, j'ai un atelier, il y a du styrofoam. On avait vu qu'il y avait des fourmis, moi je connais pas vraiment les fourmis, fait que c'est-tu des fourmis charpentières, je sais pas, qui venaient comme sur le bord de la maison tout le temps. Là, je dis, bon, OK, il faut arrêter ça, cette affaire-là. Fait que je descends dans mon établi, j'arrive dans mon établi, c'est à peu près à la même hauteur, mais j'allais chercher, tu sais, des produits pour leur régler leur compte. J'arrive là, puis c'est du styrofoam qui a été soufflé au plafond. J'entends dans le plafond. J'ai jamais entendu ça, là. Ça fait 10 ans qu'on est là. Pas normal. Commence à arracher du styrofoam. Les fourmis tombent par terre. Ils sont rentrés. Bon, finalement, c'était pas des fourmis charpentières. Tout va bien. On a réglé leur cas, puis ça s'est arrêté là. Cette semaine, je sors de mon bureau. Dans le corridor, devant moi, une fourmi, 2 centimètres de long, l'abdomen ça de gros, qui a de la misère à avancer. Tu sais, l'abdomen d'une femme enceinte de 9 mois, là? La mets dans un petit pot, je dis, Esther, trouve des exterminateurs, va consulter. Reine charpentière. Vous comprenez que psaume 34, c'était approprié pour moi? C'était bon cette semaine. J'ai une charpentière dans ma maison, c'est fait expliquer. Vous avez 48 heures à chercher un nid. Si vous n'en voyez pas d'autre, Dieu l'a placé sur votre chemin, vous l'avez attrapé. C'est pas ça qu'ils ont dit, là, mais c'est mon interprétation. C'est mon interprétation de chrétien, vous comprenez? Tu l'as attrapé juste au bon moment, c'était ça l'histoire. Fait que vous pourrez continuer à prier, c'est comme ma manière de placer une petite roquette de prière. Ça fait plus que 48 heures, on n'a pas vu d'autres fourmis, ça a de l'air qu'on va s'en sortir. Tantôt, j'ai plein de gens qui vont venir me dire « Non, 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 t'es pas sorti du bois, je le sais, vous allez venir me rassurer. » C'est bon. On va se fier aux spécialistes pour l'instant, Dieu est bon. Mais voyez, il y a toutes sortes de peurs, ça arrive n'importe quand. Je m'en vais à la retraite des anciens, puis je pense à ma fourmi charpentière reine dans mon corridor en face de mon bureau. C'est n'importe quoi, c'est la vie, c'est la vie. Mais avec la vie et la foi, on apprend, David nous enseigne que Dieu est près de ceux qui souffrent et qui se tournent vers lui. Et donc, la semaine dernière, dans le psaume 32, on a vu l'idée que dans la confession, David choisit, il prend la décision de se tourner vers Dieu pour confesser son péché à Dieu. Il y a une décision que David prend, puis on retrouve ça ici encore dans le psaume 34. Il y a une décision à prendre. Lorsque le malheur frappe, lorsque les peurs m'assaillent, il y a une décision à prendre de choisir de me tourner vers Dieu dans ma souffrance, dans mes angoisses, d'aller me confier en Dieu. Au verset 5 encore, « J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voyez-vous, David a fait ce choix-là, à ce moment-là, de se tourner vers Dieu. En ouverture, j'étais un petit peu à la blague, puis je disais, rendez au médecin ce qui est au médecin, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Mais je faisais pas vraiment des blagues, vous comprenez? Peut-être que tu as besoin d'aller voir le médecin à cause de toutes les épreuves qui t'assaillent, puis peut-être que tu as besoin d'assistance médicale, ça se peut très bien. Mais je t'assure que si tu as besoin d'assistance médicale, tu as besoin aussi d'assistance divine, je te le garantis. Et donc, il y a une décision à prendre. Lorsque le malheur nous frappe, lorsque les inquiétudes nous assaillent, il y a une décision à prendre de se tourner vers Dieu pour chercher la face de Dieu. On lit au verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards. » Voyez-vous, il y a un mouvement intentionnel. Je me détourne de quelque chose pour fixer mes regards sur la personne de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. L'expression qui est là pour rayonnant de joie ailleurs est utilisée pour décrire le visage d'une mère qui reçoit son enfant pour la première fois dans ses bras. Vous imaginez le visage qui reçoit son enfant dans ses bras? Il dit, quand on tourne les regards, on détourne les regards de ce qui nous terrifie, de ce qui nous stresse, de ce qui nous inquiète, de nos épreuves, puis on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Il y a une décision à prendre pour aller puiser en Dieu cette joie-là, cette espérance-là. Et le visage ne se couvre pas de honte. Derek Kidner résume ça comme ça, il dit, le véritable trésor, c'est d'apprendre à se confier en Dieu dans nos malheurs. Je répète ça, d'accord? Le véritable trésor, c'est d'apprendre à se confier en Dieu dans nos malheurs. Et il continue en disant, c'est la réponse à nos plus grands malheurs, à nos plus grandes questions. Et donc, ce que Kidner est en train de dire, c'est que la délivrance, c'est la réponse de Dieu. Mais la vraie réponse plus grande que la délivrance, c'est de se tourner vers Dieu et de se confier en lui pour trouver notre espoir en lui. Parce qu'on vit dans un monde où on va souffrir. Vous avez traversé une épreuve, il y en a d'autres qui viennent. C'est la réalité. Votre vie devrait se terminer avec une grande épreuve aussi, la mort. Et donc ça, c'est la réalité, c'est dans cet univers-là qu'on vit. Et donc Kidner nous dit, c'est la réponse à nos plus grands malheurs, c'est d'apprendre à se confier à Dieu dans nos malheurs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « chercher Dieu » ? Voici comment on le résume. Chercher Dieu ou chercher la face de Dieu, c'est choisir d'aller vers Dieu. C'est prendre la décision de se tourner vers Dieu dans la prière, dans sa parole, pour attendre son secours et sa consolation, sans faillir dans notre foi en lui. Je répète ça. Chercher Dieu ou chercher la face de Dieu, c'est choisir d'aller vers Dieu, c'est prendre la décision intérieure de se tourner vers Dieu dans la prière, dans sa parole, pour attendre son secours et sa consolation sans faillir dans notre foi en lui. Et c'est ça que David nous enseigne. David nous enseigne à marcher fidèlement avec Dieu, à persévérer dans notre marche avec Dieu, à continuer dans notre marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il va dire que le juste, l'homme sage, la femme sage, c'est quelqu'un qui, bon an, mal an, n'importe comment ta journée se passe, t'es dans une saison difficile, les mois sont difficiles, ça va mal à job, il y a de la pression, ça va mal dans la maison. J'ai développé cette fidélité, cette régularité, simplement de marcher avec Dieu. Tout ça ne remet pas en question pour moi le fait que je marche avec Dieu. Je me lève le matin, je marche avec Dieu. Je me lève le matin, j'ouvre la parole, je m'en vais dans la parole. Je confie mes soucis à Dieu. Je tourne mon regard 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois par jour. Je tourne mon regard vers Dieu, je me confie en Dieu. Constamment, les inquiétudes reviennent, une épreuve revient, un potentiel malheur vient d'apparaître, il y a une fourmi charpentière qui se promène dans ton corridor, j'ai pas besoin de ce problème-là, c'est pas le temps, Seigneur, non, pas maintenant, mais encore une fois, je me tourne vers Dieu. Parce que dans ma vie, je suis quelqu'un qui marche avec Dieu. J'ai un homme, une femme qui a choisi de marcher avec Dieu dans les moments de joie, dans les moments de souffrance. Prendrai le temps cette semaine d'aller lire, de méditer sur 1 Pierre 3, 10 à 17. Je prendrai pas le temps de le lire. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve cette même idée-là encore une fois. Marche avec Dieu, puis il va y avoir des épreuves, il va y avoir de la souffrance, mais mieux vaut souffrir en craignant Dieu que de souffrir sans Dieu. Amen. Et donc, on veut devenir ces hommes et ces femmes de Dieu qui écrivent un carnet de voyage par leur prière à tous les jours, se tournent vers Dieu et disent, « Seigneur, voici ce qui est survenu, là. Ça vient de se passer. Garde mes regards sur toi. Seigneur, je me confie en toi. C'est toi ma délivrance, c'est toi mon secours. » Et on veut apprendre à écrire par nos prières, constantes à travers la journée, matin et soir, à travers toute la journée, ce carnet de voyage où je confie à Dieu mes états d'âme, mes joies, mes peines, mes craintes. Pourquoi nous dit David au verset 8? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et au contraire, au verset 17, il dit l'Éternel tourne, détourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et donc, celui qui décide de ne pas se confier en Dieu, si Dieu se tourne vers lui, c'est avec sa colère, c'est pas avec sa faveur. Mais David dit que Dieu, le cœur de Dieu, est près du malheureux qui se confie en lui. Et donc, dans les jours de malheur, dans les jours de détresse, si j'ai appris à me confier en Dieu, j'ai cette conviction profonde que mon Père qui m'aime me prend dans ses bras, m'accueille, et là, son oreille est attentive à ma souffrance, à mes cris, à mes larmes. Et j'apprends à trouver une profonde consolation dans le fait que je sais que Dieu est près de moi. C'est pas un mantra que je suis en train de me répéter. Vous comprenez? Je suis pas en train de me conditionner en disant « Dieu est près de moi, Dieu est près de moi, Dieu est près de moi ». Non, j'ai appris, parce que je connais le Dieu de mon salut, que Dieu est près du malheureux. Son oreille est attentive. Il campe autour de ceux qui crient à lui, qui se tournent vers lui nuit et jour. Qu'est-ce que tu peux faire pour grandir dans ta vie de prière puis apprendre à te tourner vers lui constamment? Je l'ai dit, tu peux t'asseoir avec un vieux, une vieille routière de la foi puis lui demander comment tu fais pour garder le sourire puis faire confiance à Dieu encore. Raconte-moi les moments où tu as douté de Dieu puis où Dieu t'a confondu. Raconte-moi comment tu fais pour traverser les plus grandes épreuves de ta vie. Raconte-moi comment tu fais pour avoir des louanges sur les lèvres, bon an, mal an, puis venir le dimanche matin puis louer Dieu. Tu peux te joindre à un groupe de prière avec les dames, avec les hommes pour aller apprendre à prier. Vous savez comment on apprend à prier? C'est en écoutant les autres prier. C'est comme ça qu'on apprend à prier. C'est ça le principe du psaume 34. David prie et loue, puis il nous dit, voici comment on fait ça, écoutez-moi, louez avec moi maintenant. C'est comme ça qu'on apprend à prier, c'est en écoutant d'autres personnes prier. Je ne sais pas qui t'entend prier, est-ce que t'entends prier seulement des gens qui ont zéro foi? Puis qui sont terrassés par les épreuves de la vie? Va te tenir avec des vieux routiers, des vieilles routières de la foi. Écoute-les prier. Ah, ils ne sont pas parfaits, hein? Claudia nous a dit qu'Antonio n'était pas un homme parfait, mais c'était l'homme parfait, le papa parfait pour elle. Bien, ici, cette église-là n'est pas parfaite, les amis. Mais Dieu nous a parfaitement disposés ensemble pour qu'on apprenne les uns les autres. Va écouter des gens prier. Tu peux mettre tes peurs par écrit et les confier à Dieu dans la prière plutôt que les ruminer sans cesse. Vous savez, hein, comment est-ce qu'on est? On joue les scénarios, puis on les rejoue, puis on les rejoue, puis on les rejoue. Puis là, à la fin de la journée, tu te dis, mais ce vidéo-là, il a passé 40 fois dans ma tête, puis je n'ai pas prié une seule fois. Bravo! Prends le temps de prendre ça, puis mets-le par écrit. Prends le temps de verbaliser clairement ça, au lieu de laisser la bobine tourner, là. Puis prie sur ça, ce que tu as écrit là, sur la feuille. Prends le temps de prier sur ça, afin de développer ce réflexe-là, de prendre tes craintes, tes angoisses, tes peurs, puis d'aller dans la prière au lieu de les laisser juste tourner en boucle sans fin. Puis David nous dit à la fin que si nous apprenons à nous confier, à confier nos peurs à Dieu, non seulement on va apprendre à vivre de la joie et de la paix plutôt qu'à être sans cesse dans la peur, hein, mais que Dieu va nous délivrer. Puis David va pas mal loin parce qu'il dit qu'il va toujours nous délivrer. Va toujours nous délivrer. Puis évidemment, je suis un bon occidental qui manque de foi, un grand sceptique, puis je lis ça, puis je dis « Toujours, Seigneur, toujours nous délivrer, de quoi tu parles? » Il dit au verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Effectivement, le malheur atteint souvent le juste. Moi, je peux témoigner de ça, vous pouvez témoigner de ça. Le malheur atteint. J'ai donné ma vie à Jésus, puis c'est pas comme « Hallelujah, je suis rentré au ciel. » Plus d'épreuve. Non, pas du tout, pas du tout. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il dit au verset 20, « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Au verset 18, « Et il les délivre de toute leur détresse. » Au verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mais premièrement, je crois que c'est vrai que Dieu délivre. Je crois que la foi chrétienne n'est pas un outil psychologique pour supporter des gens faibles. Je crois que l'être humain est faible, tout le monde, puis je crois que Dieu existe vraiment. Et j'ai expérimenté dans ma vie les délivrances de l'Éternel, dans mon cœur, dans des épreuves de la vie, dans des circonstances difficiles de la vie, dans des relations impossibles à restaurer, où j'ai vu l'Esprit-Saint venir faire son œuvre puis restaurer les relations. J'ai vu Dieu délivrer. Et vous avez vu Dieu délivrer souvent, souvent. Mais quelque chose de plus dans ce passage-là, parce qu'il y a quelque chose comme d'absolu, délivre toujours, sans cesse. Il dit au verset 23, « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Il y a comme quelque chose d'absolu dans ça. Et je crois, comme Derek Kidner, puis comme plusieurs pasteurs qui ont prêché sur ce passage-là, que David est en train de pointer même vers l'éternité. Parce que David est mort de sa belle mort. Il y a une épreuve de laquelle Dieu ne l'a pas délivré en lui épargnant la mort. Mais je crois qu'à la fin de ce psaume, David nous parle de cette espérance qu'on a, qu'on va être avec Dieu pour l'éternité. C'est la seule manière de comprendre que Dieu délivre toujours. Est-ce que Dieu délivre toujours le juste? Est-ce que Dieu délivre toujours le juste? Laissez-moi vous parler d'un juste que vous connaissez bien. Jésus-Christ le juste. Est-ce que Dieu délivre toujours le juste? Est-ce qu'il y a un homme sur la terre? Est-ce qu'il y a une femme sur la terre qui a été plus juste que Jésus? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Mais comment il a fini?
Crucifié.
Sur la croix. Dieu délivre toujours le juste. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hey, c'est pas un chant d'exaltation, ça? C'est de la détresse solide. Ça vaut tous les psaumes de souffrance. Regardez le verset 21, psaume 34, 21. Là, vous allez me dire, Yannick, t'es encore avec ton Jésus que tu fais apparaître partout dans la Bible. Non, soyez patient. Verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Jean 19, 36, l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et donc, pour Jean, pour l'Esprit de Dieu qui a inspiré ses paroles. Jésus-Christ le juste, Dieu a accompli ses promesses, même sur la croix. Mais Dieu ne l'a pas délivré des souffrances. En fait, Christ a porté les plus grandes souffrances qu'on portera jamais. Il a porté les souffrances ultimes. Il a été fait péché, nous disent les Écritures, afin que nous soyons déclarés justes. Que sa justice, son innocence, puisse nous être imputée à nous, puisse nous être créditée à nous. Mais Dieu a délivré Jésus-Christ le juste en le ressuscitant d'entre les morts. Amen? En le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a élevé au-dessus de tout nom. Et Jésus-Christ règne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que ce psaume-là est en train de pointer vers notre espérance à nous, notre espérance de la gloire à venir. Et donc, si dans cette vie, des épreuves surviennent, où tout ce que je trouve, c'est la consolation de me confier en Dieu, à moi qui connais vraiment le sens de ce psaume-là, qui s'est accompli dans la personne de Jésus-Christ, à moi est donnée l'espérance de savoir que si je continue à marcher avec Dieu, par la foi, dans les bons et les mauvais jours, à me confier en Dieu, à espérer en Dieu, à espérer en Jésus-Christ, Dieu me délivrera toujours dans cette vie ou dans la vie après, de tous les malheurs qu'il y a sur la terre. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On veut grandir comme Église dans notre vie de prière. Et voyez-vous, on a besoin d'apprendre à se tourner vers l'Évangile. J'ai le goût de dire l'Évangile ici parce que vous voyez, ce psaume-là pointe vers Christ. On a besoin d'apprendre à se tourner vers l'Évangile pour pouvoir déclarer, goûter, sentez et goûter, voyez combien Dieu est bon pour avoir donné son Fils Jésus-Christ pour nos péchés, pour nous pécheurs. Et apprenons comme Église à nous tourner vers Dieu sans cesse, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois par jour. Tourner les regards, les détourner de nos malheurs, de nos peurs, de nos craintes, de nos doutes. Et prendre ça pour se propulser dans la direction de Dieu. Et contempler la gloire du Dieu qui a délivré David, qui a délivré des millions de chrétiens, qui a délivré Jésus-Christ de la mort en le ressuscitant d'entre les morts, qui nous délivre à tous les jours de nos angoisses parce que nous savons qu'il nous aime, nous savons que c'est notre Père, nous savons qu'il est là pour nous. Et on a simplement besoin d'apprendre à se tourner vers lui constamment. Constamment, constamment. Parce qu'on sait que Dieu délivre toujours le juste. Toujours. Si ce n'est pas dans cette vie, il le délivre des peurs dans cette vie et de la mort pour l'éternité. On va prier ensemble. On va prier pour pouvoir grandir dans la prière. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin parce que tu es le juste. Personne ici n'est juste comme toi. Personne n'a été trouvé fidèle comme toi, Seigneur. Personne n'a fidèlement apporté toutes ses peurs, toutes ses angoisses à toi, Père. Non, on a tous été par moments, et ça nous arrive encore, d'être paralysés. Ça nous arrive de perdre des heures, de perdre des jours, voire de perdre des semaines. Paralysé par la peur, par les angoisses, par des craintes. Mais on veut apprendre comme Église, Seigneur, à se tourner vers toi dans la prière, choisir de se confier en toi pour chanter ta gloire, chanter tes louanges avec David et déclarer que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu délivre ceux qui se confient en lui. Seigneur, on veut l'enseigner les uns aux autres. On veut partager nos expériences de prière et de foi ensemble. On veut l'enseigner à nos enfants, Seigneur, qui déjà découvrent au primaire, au secondaire, un monde souvent difficile, où c'est dur de se tailler une place puis d'affirmer qui on est parfois, et qui portent des fois dans leur petit cœur tellement d'angoisse, tellement de peur, Seigneur. Et on veut être ces parents qui vont leur apprendre à se confier en toi. On veut être ces chrétiens matures qui prennent de jeunes chrétiens dans la foi. On veut être ce collègue de travail qui peut aller vers un ami qui ne te connaît pas et qui peut lui dire, « Veux-tu, je vais prier pour toi. Je veux que tu saches que je porte devant mon Dieu tous les jours cette situation terrible que tu vis. Parce que je sais que Dieu est bon envers tous les hommes. » Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier sans cesse, Seigneur. À trouver notre joie en toi, malgré les peurs et les épreuves de la vie. C'est en Jésus que nous prions. Amen.